Nous prions dans le nom de Yeshua. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, nous te glorifions, nous t'élevons. Oui, ton Saint-Nom, toi le Saint béni soit-il. Que toute la gloire te revienne. Ô Père, donne-nous maintenant la grâce de dispenser droitement de ta parole. Ouvre le cœur, afin que nous apprenions chaque jour et que nous avançons vers la statue parfaite de Christ, de Yeshua, du Messie, ô éternel notre Dieu, la Père. Donne-nous la grâce de te connaître à travers le Messie Yeshua, et que chaque jour qui passe, que nous puissions avancer dans la sanctification. Que ce petit moment que nous allons passer ensemble à commenter, à écouter ce commentaire, Seigneur, nous soit bénéfique au nom de Yeshua. Que cela nous ouvre l'esprit et le cœur, afin que nous puissions connaître Yeshua tel qu'il est. Parce que c'est le secret de la vie éternelle, ô éternel notre Dieu. Nous te louons, nous te glorifions. Gloire, honneur te soit donné. Dans le nom de Yeshua. Amen. Nous abordons aujourd'hui le chapitre 17 du premier livre de Samuel dans le cadre de notre verset de la semaine, ou les versets de la semaine, si vous voulez. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 11 premiers versets de 1 Samuel 17, 1 à 11. 1 à 11. Donc voilà, 1 à 11. Donc, nous avons vu dans le chapitre 16 comment l'Éternel a fait pour choisir David et comment il a introduit à la cour royale, voilà, dans le lieu du pouvoir. Si l'Éternel décide de te donner quelque chose, personne ne peut s'y opposer et personne ne peut te le reprendre. Personne ne peut recevoir du ciel. Personne ne peut recevoir que ce que lui a été donné du ciel, nous confirme la parole de Dieu. Dieu, l'éternel Dieu, Elohim, n'est jamais en retard. Ça, sachons-le, il n'est jamais en retard. Ses plans se réaliseront, quel que soit X, quel que soit alpha, parce qu'il est l'alpha et l'oméga, il est l'aleph et le tav, mes frères et sœurs. Donc si toi aussi, le Seigneur t'a fait une promesse, sache qu'il ne tardera pas. La Bible nous dit que le Elohim, notre Père, ne tarde pas dans la réalisation de ses promesses, mes frères et sœurs. Donc voilà, donc dans ce chapitre 17, qui n'est pas la suite logique ou chronologique du chapitre 16, parce que après avoir traité de la manière dont David a été désigné et comment il a été introduit dans les lieux de pouvoir, l'auteur revient sur une guerre à laquelle David a participé, où David s'est révélé comme un guerrier, comme un vaillant soldat, un vaillant homme, un Gibor, comme Jephthé, comme Gédéon, comme Josué et comme d'autres, comme Barak. Il sait, selon ce que l'un des serviteurs donc, de Shaoul avait prophétisé, même puisque ce qui est sorti de sa bouche venait de l'Esprit de Dieu. Je lis dans le verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlehemite, qui sait jouer. » Voilà, on a présenté ses qualités de joueur, d'habile musicien. C'est aussi, voyez, il n'est pas que habile joueur de harpe, il n'est pas que habile serviteur de Dieu, c'est aussi un homme fort, un vaillant homme, un guerrier, parlant bien, d'une belle figure, et surtout L'Éternel est avec lui. C'est le plus important. Parce que David peut avoir toutes les qualités précédentes. Si l'Éternel n'est pas avec lui, il ne réussira jamais. Selon ce qui est écrit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Ou bien c'est l'Éternel qui sait venir. Qui sait venir en aide, hein, aux forts comme aux faibles, dira le prophète Josaphat, pas le prophète, le roi Josaphat. Donc voilà. Donc il faudrait que le David soit présenté aux yeux du peuple. Et c'est pour cela que lors de cette guerre, vous allez voir que du début jusqu'à la fin, l'Éternel était maître de toutes choses, maîtrisait toutes choses, maîtrisait le timing, le tempo de tout ce qui se passait. Notre Dieu n'est pas en retard, notre Dieu ne dort pas, mais il veille, il maîtrise tous les événements de ce monde, quel que soit ce qui se passe là. Mes frères et sœurs, donc ne tremblons pas. C'est pourquoi Yeshua nous a dit, n'ayez crainte, en parlant à ses disciples. N'ayez crainte, n'ayez crainte. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. N'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Mes frères et sœurs, nous devons regarder à lui, quel que soit ce qui nous arrive. Regardons à Yeshua. On nous a dit qu'il est le chef de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Mon frère, ma sœur, tout ce qui t'arrive concourt à ton bien, à ta foi. Tout ce qui arrive concourt à ton édification. Tout ce qui arrive concourt à ce que Yeshua grandisse en toi et que toi tu diminues. Donc, accroche-toi, persévère. Voyez, beaucoup de gens pensent que nous n'avons plus d'efforts à faire, nous n'avons rien à faire, alors que la Bible nous dit d'ajouter à notre foi la vertu, d'ajouter à notre foi, c'est dans Pierre, ça, l'épître de Pierre, la science, d'ajouter à notre foi la persévérance et la patience, ainsi de suite. Nous avons à faire notre part, l'Éternel Dieu a déjà fait sa part, c'est à nous de faire notre part, frères et sœurs. Donc, l'auteur, donc, revient sur cette guerre-là qui a eu entre les Philistins, donc, et Shaoul. Il faut dire que depuis que Shaoul est arrivé au pouvoir, il n'a fait que des guerres parce que les ennemis se sont rebellés. Les ennemis se sont dit, oh là là, si nous les laissons faire, ils vont nous dominer alors que c'est nous qui les dominons avant. Donc, les Philistins donc, se sont rassemblés en ordre de bataille et les Israélites aussi. Chaque armée se trouvait sur une montagne. Il y a une vallée au milieu. Et dans cette vallée-là, qui va avoir la confrontation. Vous voyez, chaque armée était sur une hauteur et ils vont descendre dans la vallée pour se battre. Pour se battre. Donc les Philistins étaient là. Et dans le verset 4, on nous dit, un homme sorti. Un homme sorti. Un homme a fait irruption. Ouais, un homme a fait irruption. Voilà, donc. Ça m'a fait penser, avant de venir à Goliath, ça m'a fait penser à l'anti-messie. L'anti-messie aussi sortira. Il va émerger comme ça. La Bible nous dit qu'il va s'emparer du pouvoir par intrigue, par effraction. Personne ne l'attendra, mais il va venir comme Goliath, il va venir. Voilà, donc l'anti-messie va venir comme un champion du camp des mauvais, du camp des anti-dieux, du camp de tout ce qui s'oppose à tout ce qui est appelé Dieu. Voilà, comme nous dit la Bible. L'anti-messie va venir de là, comme Goliath aussi va sortir. Il sera le champion du camp des anti-dieux. Et la Bible nous dit qu'il va être couvert de noms de blasphème. Il va blasphémer Dieu, va vouloir changer les temps. Et les saisons, il va vouloir changer les choses, il va dire des choses énormissimes contre l'Éternel Dieu, comme Goliath va le faire ici. Et cet anti-messie, comme Goliath ici, va s'opposer aux enfants de Dieu, va s'opposer aux saints, au saint. Et la Bible nous dit même qu'il va vaincre les saints. Il va vaincre même les saints. D'accord? C'est ce que la Bible nous dit. Donc, voilà. Comme également ici, Goliath va sortir et va s'opposer donc à Israël. Israël est considéré comme le camp des saints. Je vous rappelle que le livre de Samuel n'est pas un livre historique, mais un livre prophétique. Cela veut dire que ce qu'on décrit ici a ses répercussions à la fin des temps. À la fin des temps. Donc, c'est ça. Donc, cet homme-là, l'anti-messie, donc, va sortir du camp des antidieux et va s'opposer à Dieu, va faire des miracles, va vouloir imiter Dieu, va vouloir prendre le pouvoir, va vouloir prendre l'ascendance, donc, sur sur le monde entier. Donc, pour pouvoir prendre l'ascendance sur le monde entier, pour pouvoir prendre le pouvoir, il faut qu'il élimine les saints. Parce que seuls les saints peuvent s'opposer à lui. Seuls les saints connaissent véritablement sa nature ou bien tout ce qui se cache derrière lui. L'ennemi qui se cache derrière lui, c'est les saints, c'est l'Église qui connaît, c'est les saints qui connaissent cela. Donc il va vouloir les éliminer, les éradiquer, comme ici les Philistins veulent éradiquer les Israélites pour occuper leur territoire. C'est fini ici, ils les ont tout massacré, c'est fini, on ne parlera plus d'Israël, donc le Messie ne viendra pas. Donc il en va du salut de l'humanité, cette guerre-là. Donc Goliath donc est sorti, et si nous voyons la description de Goliath, vraiment c'est un soldat terrible. Terrible, terrible. D'abord, 3 mètres de hauteur, un grand monsieur, et qui portait une armure de 60 kilos, ben, il faut être fort pour porter, non? Bon, aujourd'hui, les commandos portent combien? Leur paquetage, c'est combien? C'est combien? 50 kilos ou bien de 20 kilos, de 30 kilos? Je ne sais pas. Mais lui, Goliath, 60 kilos sur lui. Il doit être fort pour traîner 60 kilos, quand même. Et le fer de sa lance faisait combien? On nous dit 7 kilos. 7 kilos. Waouh! Alors là, quand tu reçois ça, vraiment, ça transperce même la terre. Je pense que ça te traverse et ça transperce même la terre. Hein? Vraiment, c'est énormissime. Donc, ça, c'est, et cet homme avait sûrement un aspect redoutable, épouvantable. La preuve, il vient, il sort comme ça, il vient dans la vallée, il lance un défi au camp d'Israël et personne n'a bougé. Tout le monde, voyons, on dit, le Philistin s'arrêta, s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin ?» Et n'êtes-vous pas des esclaves de Shaoul? Vous voyez, il est dans la provocation, il insulte, il est dans le blasphème, ainsi de suite, voilà, pour provoquer les armées, pour provoquer une rébellion. Et personne n'ose s'opposer à lui. Personne n'ose s'opposer à lui. Et il a proposé un défi. Normalement, le roi qui est le champion devait y aller, n'est-ce pas? Ben oui, puisqu'il est le roi, il est le champion, il devait y aller, non, Shaoul, ou bien ses enfants, ou le général Abner, devait s'opposer, c'est eux, d'aller au combat avec ce Philistin, mais non. Tout le monde avait peur de lui. Et la Bible nous dit qu'il s'était présenté pendant 40 jours. Mes frères, 40 jours, quelle honte! Et personne n'ose bouger, même pas les Philistins aussi n'osent bouger. Bon, je pense que l'Éternel Dieu a mis la main sur l'armée des Philistins pour qu'il n'y ait pas de combat avant 40 jours, parce que David était prévu. Dieu, les Elohim, avait prévu révéler David à travers ce combat. C'est pourquoi aucune des armées n'a bougé pendant 40 jours. Hein? Aucune des armées. L'Éternel Dieu est au contrôle de toutes choses. Ce qu'il a décidé, c'est ce qui se fera. Il a dit que David sera révélé ce jour-là comme un vaillant guerrier, comme un Gibor, un homme fort.
Comme un homme de foi, un homme de foi, un homme de foi. Parce que c'est ça qui manquait à Shaoul et à toute l'armée d'Israël, puisque la tête est pourrie, Shaoul. Ben, le reste aussi, ils ne tiendront pas. Sans la foi, ils ne tiendront pas. Et avec la peur qu'ils ont, mais ils n'ont plus de foi. D'ailleurs, ils avaient peur. Ils avaient peur alors que l'Éternel Dieu, Shaoul, c'est étonnant, hein? L'Éternel Dieu lui a fait gagner des batailles. Il pensait que c'est de ses propres armes, de sa main puissante qu'il a pu gagner la preuve. Dès qu'il a gagné, il était parti ériger, dès qu'il a vaincu les Amalécites, il était allé s'ériger une statue à la gloire de son nom. Il n'y a rien de nouveau, hein, sous le soleil. Hein, vous voyez que les chefs militaires souvent s'érigent des statues à la gloire de leur bataille, de leur victoire supposée. C'était depuis des temps immémoriaux que cela se faisait. D'accord? Donc ici, la peur, la crainte a anesthésié et tué leur foi. La crainte les a mis dans la confusion. Ils ont perdu le sens, le bon sens. Ils ont perdu le bon sens. Parce que le bon sens, c'est de dire que c'est l'Éternel qui lui a permis à Shaoul d'être roi. Avec toutes les prophéties que Samuel lui a données. Et Jonathan aussi était là pour lui témoigner que c'est l'Éternel qui lui a donné la grâce de vaincre la première fois les Philistins. Et Shaoul même a vu cela. Mais non, il pensait que c'est sa seule force. Et comme il ne voulait pas mourir, il ne voulait pas perdre le fauteuil, il ne voulait pas perdre la face devant toute l'armée d'Israël, il n'a pas osé relever le défi de Goliath, alors que c'était à lui de le faire. C'est le capitaine, non, qui sauve ses subordonnés ou ses compagnons d'armes. Mais non, lui aussi était là. Et le verset 11 nous dit, Shaoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et il fut effrayé. Et saisi d'une grande crainte, voilà c'est ça, d'une grande crainte. Il tremblait, il tremblait, il tremblait devant l'ennemi de nos âmes, il tremblait devant Goliath. Nous aussi, nous avons des Goliaths dans la ville, mais nous ne devons pas trembler. Ouais, il y a un verset, je ne sais pas où j'ai vu ça, mais je ne sais même pas si c'est un verset, mais il y a une parole qui est dans ma tête, je pense que c'est un verset, mais c'est pas, où l'Éternel disait à Israël, de qui avez-vous peur pour me désobéir? De qui avez-vous peur? Je ne sais pas si c'est un verset, mais c'est pas, mais c'est quelque chose qui est ancré dans ma tête, quoi. De qui avez-vous peur pour me désobéir? Je pense que c'est dans Ésaïe, je sais plus. De qui avez-vous peur pour me désobéir? Voilà. Comme ils avaient peur, ils ne pouvaient pas donc engager la bataille. Comme ils n'avaient pas la foi, ils ne pouvaient pas, ils avaient peur. Et comme ils avaient peur, ils ne peuvent pas avoir la foi. Vous voyez, ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Ils sont là pendant 40 jours. Quelle honte. Quelle honte, quel mépris ce Philistin avait pour Israël. C'est pour cela que quand David va apparaître, il sera très en colère. Voilà, comment vous laissez ce monsieur insulter Israël, l'armée du Dieu vivant? Comment osez-vous? Mais oui, Israël était l'armée du Dieu vivant, comme aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes l'armée du Dieu vivant. Nous sommes l'armée d'Élohim. Nous sommes le peuple d'Élohim, comme Israël aussi est le peuple, malgré toutes les critiques qu'on peut émettre contre Israël aujourd'hui, il demeure le peuple de Dieu. Ben oui, il demeure le peuple de Dieu. Voilà, là, ça, personne ne peut le nier puisque la Bible nous dit que le salut vient des Juifs. Voilà, donc c'est tout. Hein? D'accord, mes frères et sœurs, la peur, la crainte bannit la foi. La crainte, la peur tue la foi. Hein? On ne peut pas avoir peur et avoir la foi. C'est ce que Yeshua dit aux apôtres. homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Pourquoi, homme de peu, pourquoi as-tu douté? Ou bien il a reproché à ses disciples lors de la traversée de la mer de Galilée, et que voilà, pourquoi vous avez, qui n'ont pas la foi, il leur a reproché leur incrédulité, incrédulité, mes frères et sœurs, l'incrédulité, la peur entretient l'incrédulité, la peur amène la défaite, la peur bannit la foi. Et mes frères et sœurs, nous ne devons plus avoir peur là. Soit que nous mourons, soit que nous vivons, ben nous sommes dans la main de l'Éternel Dieu. C'est ça que nous devons savoir, hein, mes frères et sœurs. C'est vrai que c'est pas facile, hein, lorsqu'on est face à la mort. Hein, je pensais au compagnon de Daniel aujourd'hui. J'aime bien quoi. J'en ai parlé avec mon fils aujourd'hui. J'aime bien ce verset. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, ô roi, même si notre Dieu ne nous sauve pas, nous n'adorerons pas ton idole. Ah là 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 là. Voilà une déclaration de foi. Voilà une déclaration de foi, mes frères et sœurs. Donc nous aussi, nous devons être dans cette position ferme. Nous devons demeurer fermés sans. À l'égard de la souillure de ce monde, à l'égard des choses de ce monde. Mes frères et sœurs, bientôt la trompette sonnera. Bientôt la trompette sonnera. Demeurons fermés saints, mes frères et sœurs. Demeurons forts, forts, forts dans la foi. Demeurons fermes dans la foi. Soyons des guibords. C'est le temps des guibords, mes frères et sœurs, actuellement. Et nous venons de vivre ces deux dernières années. Voilà, c'est le temps vraiment des guibords. Et les temps à venir seront encore pires. Donc, nous avons besoin de cette foi pour progresser, pour traverser ces épreuves, pour aller de l'avant. Et la Bible nous dit qu'il y a une grande tentation qui va venir comme un filet sur tous les habitants de la terre. Et c'est notre foi qui nous sauvera. Or, Yeshua a dit que en ce qui concerne les derniers temps, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, nous allons plutôt vers une raréfaction de la foi. Mais si nous nous accrochons à la parole, cela ne veut pas dire que tous vont abandonner la foi. Il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. C'est ce que Elohim a fait comprendre à Élie, qu'il a mille et quelques personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, devant l'idole. Il y a toujours un reste que Dieu garde dans le secret. Mes frères et sœurs, soyons de ce reste fidèle. Soyons de cette église fidèle qui ne renonce pas à la parole de Dieu, et qui ne renonce pas à toute la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit, et qui la pratique jour et nuit. Que cette parole, comme David l'a dit, soit une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Vous savez, dans la Bible, l'humain est considéré comme un arbre, et la parole de Dieu comme l'eau. Vous voyez, l'arbre a besoin de l'eau pour grandir, pour être en bonne forme. Ainsi de suite. Donc, plongeons nos racines dans la parole de Dieu, la vraie parole, et ne nous gargarisons pas avec les fables, avec les soi-disant expériences, avec soi-disant des voyages ici et là, avec des prophéties, machin bidule, des choses bidons. Oh, mon frère et ma sœur, reviens à Jésus. C'est Jésus qui fait là. Et tu n'as pas besoin de parcourir toute la terre pour aller chercher une guérison ici, pour aller voir tel prophète, pour aller voir tel diseur de bonne aventure, pour aller voir tel apôtre, tel, c'est pas encore prophétesse, ainsi de suite, telle voyante qui va te montrer ça, que Dieu a dit ça. Yeshua est le même hier, aujourd'hui et éternellement. mes frères et sœurs. Ainsi, ayons le regard sur lui. Ne tremblons pas. Je sais qu'il est très facile de prêcher. Il est très facile de parler de la parole de Dieu ou de la part de Dieu. Mais il n'est pas facile de mettre les choses en pratique. Lorsque vous-même vous êtes confronté à certaines situations, si tu ne fais pas faire, tu vas dérouler, tu vas vraiment vite dévier. Mais l'Éternel nous donne la grâce. Si nous accrochons, mais nous donnera la grâce de nous en sortir. C'est ce qu'il dit, qu'aucune tentation ne nous est survenue qui soit au-dessus de nos forces. Mais avec la tentation, l'Éternel use de patience pour nous en sortir. Et puis nous avons des ressources. La Bible nous dit que nous avons un bon souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, puisque lui-même a été tenté comme nous, puisque lui-même a souffert plus que nous. Moi, quand les gens, en tout cas certaines personnes, viennent me raconter leur malheur ainsi de suite, ah oui, je vis vraiment un véritable enfer. Je les regarde et je dis, mais bon, vous n'avez pas encore souffert comme Yeshua. Donc, taisez-vous, quoi. En tout cas, pas taisez-vous, mais essayez de relativiser votre douleur et continuez de prier, persévérez hein, dans la foi. Et Yeshua, parce qu'il te connaît, il comprend ta souffrance parce que lui-même était passé par là, mes frères et mes sœurs. Donc, si nous n'avons pas encore souffert, si nous, comme Jésus, ou bien si nous n'avons pas encore souffert plus que Yeshua, alors, ben, continuons de prier et continuons de chercher des solutions. Hein? L'Éternel Dieu nous donne, nous ouvrira les yeux, nous ouvrira une porte pour nous en sortir. Mais de grâce, ne nous fâchons pas contre Elohim. D'ailleurs, on ne peut même pas se fâcher contre lui. Hein? On ne peut pas. Quel que soit les tours qu'une feuille, en tombant de l'arbre, fait dans l'air, elle retombe toujours sur le sol. Donc, un jour, qui que tu sois, si tu n'as pas donné ta vie à Yeshua, ben un jour, tu te retrouvais devant le jugement de Dieu, sache-le. Et nous, en tant que croyants en Yeshua, nous aussi, nous allons passer devant le tribunal du Messie, mes frères et sœurs. Ayons cela en tête pour ne pas continuer à mal agir. Mais efforçons-nous d'entrer, efforçons-nous de marcher comme lui-même a marché. Parce que pour ceux qui iront sur la montagne sainte, c'est ceux qui ont les mains innocents et le cœur pur. Mes frères et sœurs, le sang de Jésus est toujours actif pour nous purifier de tout péché, pour nous laver, pour nous purifier et nous permettre de continuer. Frères et sœurs, ici, l'armée d'Israël donc est restée dans la crainte, dans une grande crainte, et elle était paralysée par la peur. La peur paralyse la foi. La peur bannit la foi. La peur démolit la foi. La peur enterre carrément la foi. Ce qui fait que quand vous êtes dans la crainte, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire comme chrétien. Vous ne serez pas un instrument efficace entre les mains du Seigneur. Vous serez tiède. Voilà, au lieu d'être bouillant pour lui, vous serez tiède, mes frères et sœurs. Que le Tout-Puissant Dieu nous donne la grâce de demeurer attachés à lui tous les jours de notre vie. Bannissons la crainte de notre cœur et regardons à lui, le chef et le consommateur de la foi. Que le Tout-Puissant Dieu nous bénisse et nous garde et nous donne la grâce de continuer à œuvrer puissamment pour lui. Dans le nom de Yeshua. Amen.